Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans ce Paris un petit peu pluvieux ces jours-ci, mais que du bonheur d'être avec trois personnalités, trois auteurs que je vous présenterai dans un instant. Parce que avant, je voulais, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter, vous présenter un événement qui me tient à cœur, la Route des Légendes, qui met à l'honneur deux amis, deux pilotes qui nous ont quittés, Hubert Auriol et René Medge, deux sportifs de haut niveau du Paris-Dakar. Il y a actuellement, à partir de samedi, la Route des Légendes, sur les traces de ces deux héros-là. Le départ se fait à Versailles. Et ils rejoignent 7, il y aura une trentaine de motos, 25 voitures, voilà. Alors je voulais vous donner cette information parce que je suis moi-même motard, passionné de sport automobile, et je devais faire partie de cette équipe qui devait rejoindre 7 aujourd'hui, mais je suis avec vous, voilà, donc que du bonheur, voilà. Et maintenant on va attaquer le libre journal des éditeurs avec nos personnalités. Alors j'accueille aujourd'hui Claude Guittard, que certains connaissent, parce que tous les gourmets connaissent une maison qui s'appelle LIP 151 boulevard Saint-Germain, dans le 6e, qui organise pour nous littéraires le prix CAS, qui a été organisé par Marcelin CAS, l'ancien propriétaire, si je ne m'abuse, Claude. Donc votre livre raconte un petit peu les plus de 30 ans que vous avez passé dans cette magnifique, ce lieu magique, magnifique, qui a rassemblé tout Paris, qui a reçu tout Paris. On va parler de votre livre, bien sûr, longtemps, des anecdotes, des gens que vous avez rencontrés. Nous accueillons aussi Gérard Le Tailleur. Gérard Le Tailleur, alors vous le connaissez, il est régulièrement sur Radio Courtoisie, on connaît sa voix, son brio, son excellence. Et Gérard Le Tailleur vient de sortir un livre sur un bistrot, Valzac, le café des sportifs, qui se trouve rue Brancion. Et donc là, et alors Gérard Le Tailleur est aussi l'auteur de l'histoire insolite des cafés de Parisiens, une véritable bible qui est préfacée par Jean-Pierre. Et nous avons enfin avec nous Jean-Claude Ribaud qui sortira en octobre, il va nous en parler en avant-première, c'est une avant-première, Claude, Jean-Claude, le dictionnaire gourmand du bien manger et du bien boire. Voilà, la parution c'est le 15 octobre. Et je remercie Sylvania Birkenzi qui nous a renvoyé, qui m'a envoyé les bonnes feuilles du livre. Que du bonheur, j'ai commencé à le déguster et j'ai retrouvé dans votre livre aussi des tas d'amis. Yannick Aleno, que vous citez d'ailleurs, qui est un ami et que je salue s'il nous écoute, qui a tristement perdu son fils, que j'ai bien connu aussi. Voilà, alors on va commencer peut-être avec Claude Guittard. Claude, alors, une aventure qui se termine?
Oui, une aventure qui s'est terminée, mais on ne quitte jamais vraiment LIP. Moi, j'y ai passé donc plus de 30 ans et j'y retourne régulièrement avec plaisir.
Vous y retournez régulièrement?
Ah oui, oui, oui.
Vous avez votre table chez LIP?
Oui, aujourd'hui, j'ai ma table chez LIP. Je m'insère dans le flot des clients et j'ai ma table chez LIP.
Voilà, donc vous avez passé 30 ans. Et là, vous avez rencontré le tout Paris parce que... Pour avoir fréquenté LIP, où je suis allé à de nombreuses reprises, on a dû s'y croiser. J'avais à l'époque, en tant qu'éditeur, mon bureau au 216 boulevard Saint-Germain, avec Pierre Belfond, et on venait régulièrement avec nos auteurs. Je suis venu avec Cavana, avec Cabu, bien sûr, tristement disparu. Georges Wolinski, qui était un ami qui habitait rue Bonaparte et qui traversait la rue pour venir grignoter, si j'ose dire, chez LIP.
Oui, voilà. Qui était un client fidèle. Georges et son épouse étaient vraiment des clients fidèles.
C'était des clients fidèles, avec Maryse, ils venaient très régulièrement. Alors vous êtes arrivé chez LIP il y a 30 ans, dans des circonstances qui étaient un peu inhabituelles, parce que vous êtes arrivé là et on vous a engagé.
Oui, je cherchais du travail, j'avais eu une expérience malheureuse en province et je cherchais du travail. Et je connaissais LIP de réputation, évidemment, j'avais déjà travaillé à Paris. Donc j'ai décidé de pousser la porte.
Voilà. Et là, vous avez été reçu agréablement et vous avez commencé, vous êtes rentré par la petite porte.
Oui, je suis rentré par la petite porte.
Mais vous dites que vous n'êtes pas rentré, que vous rentrez jamais par l'entrée de service, mais que vous rentriez par l'entrée principale.
Toujours, toujours. Mais ça, en tant que directeur, je faisais ça parce que pour moi, c'est l'entrée des clients et ça me permettait de voir s'il y avait quelque chose qui clochait. Faire le tour le matin en arrivant, les ampoules grillées, mon obsession... Donc une ampoule grillée, pour moi, je trouve que c'est une maison mal tenue. Donc j'ai toujours fait attention à ce genre de détails.
Donc, c'était la bonne humeur qui régnait dans la maison ?
Oui, parce que c'est une belle équipe, il y a 75 salariés, on travaille, on passe quand même plus de temps avec ses salariés qu'avec sa famille, c'est un métier très prenant, mais il y avait une très bonne ambiance, oui.
Donc il y avait, c'est une histoire un peu familiale, parce qu'il y avait le père Caz, si j'ose dire,
ouais.
Et puis ensuite il y avait, je crois que c'était Roger, son fils, qui a pris la direction, il faisait travailler aussi son cousin, Michel.
Ouais.
Donc vous avez traversé, vous êtes resté dans cette maison passionné, intéressé, ça a été un coup de cœur, ça a été...
Tout à fait. Mais parce que c'est une maison qui a d'abord une histoire un peu commune, elle est là depuis 1880, et surtout c'est un établissement à Paris qui n'a connu que trois propriétaires, ce qui est rarissime. Et ça fait en fait, l'histoire s'est conservée parce qu'elle a été transmise entre les différents, entre le créateur Léonard Lippe, la famille Caz qui est restée plus de 70 ans à la tête de la maison, et maintenant aujourd'hui Olivier Bertrand. Donc il y a eu très peu de propriétaires et... L'histoire a perduré et les habitudes ont été conservées.
Donc c'était la dynastie, le début de la dynastie à Véronèse, là.
Ah, totalement. Oui, oui.
Voilà. Alors, je vais donner la parole à notre ami Gérard Le Tailleur, parce que dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, il réserve une très belle place à la brasserie Lippe. La cantine incontournable du tout Paris, le patriarche Marsin avait débuté courageusement en livrant des bains à domicile, portant sur son dos une baignoire et une citerne.
Oui, c'est vrai.
Bah, l'anecdote m'a été d'ailleurs communiquée par Monsieur Claude Guittard il y a déjà quelques temps.
On avait déjà échangé.
On avait discuté longuement, parce qu'avant d'écrire cet ouvrage, j'avais quand même fait un tour dans les établissements les plus connus de Paris, tout du moins ceux qui se sont illustrés de par leur clientèle avant tout, parce que l'histoire des cafés parisiens, c'est avant tout l'histoire des personnes qui ont animé ces cafés. Et puis en ce qui concerne la brasserie Lippe, c'est aussi lié à l'histoire. C'est M. Lippe qui quitte l'Alsace parce qu'il ne veut pas rester, n'est-ce pas, sous le joug des Teutons, des Prussiens, et parce que ça s'appelait avant la brasserie des Bordurins.
Oui, voilà. À l'ouverture, ça s'appelait la brasserie des Bordurins.
Et donc, ils se sont installés. Donc, la brasserie a ouvert boulevard Saint-Germain. Donc, ils ont trouvé ce lieu magique et c'est devenu, je dirais, une espèce de lieu où tout Paris est venu, quoi. Moi,
Oui, le quartier est fait pour beaucoup, je pense, parce que ça reste un des quartiers de Paris très habités. Il y a peu de sièges sociaux d'entreprise ou de cabinets d'avocats. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui habitent le quartier. C'est quand même Saint-Germain-des-Prés. Si on remonte à l'histoire de l'abbaye, il y avait les imprimeries, les premiers imprimeurs, les premiers éditeurs qui étaient dans ce quartier. Et ça a perduré et ça a amené déjà cette première clientèle d'écrivains, d'éditeurs, de journalistes qui...
Alors les éditeurs, on en fait quasiment leur cantine, parce que lorsque j'allais déjeuner ou dîner chez Lippe, je rencontrais toujours des tas de copains éditeurs, des tas d'auteurs qui étaient là, je leur voyais lever la main, je vois mon ami Jean-Claude Simoen, que vous avez peut-être connu, qui était là, qui me disait « Toi, je t'avais dit que je sortirais ce livre !» C'était qui était très, très braillard, très... Très, très volubile là, et les maisons d'édition ont beaucoup fréquenté Lippe.
Oui, oui, ben, dans le quartier, il y avait quand même la majorité des maisons d'édition. C'est moins vrai aujourd'hui parce que le prix de l'immobilier les a fait déménager un petit peu en dehors du quartier, mais il reste quand même de belles maisons d'édition. Gallimard, Grasset, autour de la place Saint-Sulpice, rue des Beaux-Arts, il y a encore pas mal de belles maisons d'édition.
Et donc, ces gens-là, et puis alors, il y avait non seulement les éditeurs, il y avait les auteurs qui venaient, mais il y avait aussi des personnalités. Marcel Bluchstein-Blanchet venait régulièrement, François Mitterrand avait quasiment sa table à droite.
François Mitterrand, il est venu dès la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, quand il a été sous la 4e République, il a été 11 fois ministre. On a plein de photos d'archives où on voit François Mitterrand venir déjeuner ou dîner à la brasserie.
Il était là très régulièrement et il avait un plat particulier.
Mais il aimait bien la choucroute, ça, alors c'est vraiment... Et puis les huîtres, c'était ces deux plats.
La choucroute et les huîtres. Alors il faut dire que Lippe, c'est la choucroute, les huîtres, mais c'est aussi de nombreux plats de la cuisine française traditionnelle, je vais dire.
Oui, tout à fait. On connaît évidemment le cervelas rémoulade qui est d'anthologie chez Lippe.
C'est une anthologie chez Lippe.
Toujours sur place, bien sûr.
Jean-Claude Ribaud, vous avez fréquenté Lippe aussi beaucoup ?
Beaucoup, non, parce que bien que j'ai habité deux adresses qui étaient à moins de 150 mètres de Lippe, rue des Ciseaux d'une part, qui est une petite rue devant l'église Saint-Germain-des-Prés, et au 212 boulevard Saint-Germain, où habitait aussi Volinsky, dont vous parliez tout à l'heure. Volinsky n'habitait pas rue Bonaparte, comme vous l'avez dit.
Ah, il était, je suis allé plusieurs fois chez lui, il était dans la rue Bonaparte au début, dans un immeuble qui était à gauche.
Récemment, disons, enfin, ces 15 dernières années, il était au 212.
Ah, peut-être, au 212 après. Oui, oui.
Germain, où j'ai habité ces dernières années aussi. Alors, Lip, oui, c'était bon, intermédiaire entre la cantine d'étudiants.
C'est ce qui faisait tout son charme d'ailleurs.
Oui, mais et le Calvet qui était le restaurant où venait Pompidou.
Exactement.
Donc c'était un peu un intermédiaire au niveau des prix d'une part et puis sans doute du standing. Calvet, je suis allé quelques fois, mais je n'ai pas des souvenirs extrêmement précis. Lipsy, bien sûr. Alors, tout ce qu'on racontait évidemment, quand on avait les faveurs de la direction, on était bien placé. Sinon, on se retrouvait au premier étage.
Alors, c'était vexant. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé au Claude Guitare. Je ne sais pas pourquoi. Il me disait oui, j'ai une table là-haut. Alors, j'étais un peu frustré, vexé. Vous êtes
sûr que c'était
alors, j'avais
moi
des copains qui me disaient tu vas là-haut ouais.
Bon,
on était mis un petit peu.
Il y avait un rituel, disons.
Oui, il y avait un rituel. Alors, il y avait un autre rituel. Chez Lip, les horloges avançaient de 7 minutes exactement.
Oui, c'est Marcel Agaz qui avait mis ça au point, parce qu'il y a eu quand même une énorme clientèle politique, et les politiques, c'est un autre temps dont je vous parle, mais où on passait du temps à table, on pouvait avoir des déjeuners qui s'étiraient dans l'après-midi, ou des dîners dans la soirée. Et pour aller de la Brasserie Lip à l'Assemblée nationale ou au Sénat, à l'époque où le boulevard Saint-Germain était dans les deux sens, il fallait 7 minutes. Donc Marcelin Caz avait avancé les horloges de 7 minutes.
Astucieux.
Il y a des horloges dans toutes les pièces
de la
brasserie.
Bien sûr.
Donc quand ces messieurs regardaient l'horloge, ils se disaient « Oula, je vais être en retard », ils partaient vite. Et en fait, ils arrivaient à leur séance tout à fait à l'heure.
Voilà, parce qu'il y avait les politiques qui venaient aussi. Jacques Chirac venait régulièrement. Ce qu'il appelait la cuisine de bonne femme, Chirac.
Oui, complètement. Mais il aimait bien la cuisine de bonne femme.
Il aimait bien. Bah, c'était un fin gourmet.
Oui, puis ce sont des cuisines qu'on
ne trouve fourchette, comme on
plus
dit.
Beaucoup ailleurs.
Ouais. Il y avait le millefeuille en dessert.
Il y a toujours le millefeuille.
Toujours le millefeuille, qui est une merveille.
Qui est une merveille,
On lèche les babines quand j'y pense, là, hein, parce que c'était vraiment, à la fin du repas, hein, pour moi, c'était...
Les habitués le réservaient en arrivant.
En arrivant, oui.
On a toujours entretenu, entre guillemets, une certaine pénurie, parce que le millefeuille, c'est bon si c'est frais, si le feuilletage croustille. Si le feuilletage devient imbibé de crème, il va ramollir et c'est pas
le millefeuille. Vous aviez la chance de pouvoir goûter les plats de...
Tous les jours.
Et vous êtes resté mince?
Ah oui, mais...
Vous faites comment?
Le travail de la brasserie, c'est quand même un petit peu physique. On est debout toute la journée, on marche pas mal. Mais oui, il faut goûter. On ne peut pas vendre des choses si on ne les goûte pas. Et même si on... Une particularité de la brasserie, c'est de resservir les plats, tous les mêmes plats les mêmes jours. C'est-à-dire, le mardi, c'est la blanquette. Le mercredi, c'est le bœuf mode. Ça fait 80 ans que ça existe. Mais il faut quand même goûter d'une semaine sur l'autre. Même si c'est le même cuisinier qui le fait, il faut s'assurer que ce qu'on sert est de bonne qualité.
C'est le métier.
C'est le métier, ça, métier. Bien sûr. On n'est jamais à l'abri d'une erreur, on oublie le sel, on oublie le poivre, vous savez, ces petites choses qui peuvent arriver. Hein.
Oui, bah, ça, partout. Donc, et alors, il y avait aussi une personnalité politique qui venait souvent, c'était Pasqua, Charles Pasqua. Ouais. Charles Pasqua qui roulait toujours une place dite du radiateur, la table 2.
Tout à fait. Et surtout...
Les gens avaient leurs habitudes, comme ça.
Ah oui, les tables étaient... on n'a jamais mis de nom sur les tables, parce que ce n'était pas possible, mais chacun savait très bien la table qu'il aimait, et nous, on savait aussi, donc on les installait toujours aux tables qu'il préférait.
Il était toujours face à la clientèle?
Toujours. Un jour, j'ai voulu l'installer sur la chaise, parce qu'il m'avait dit qu'il déjeunait avec une dame, donc je pensais que madame serait sur la banquette, et il m'a dit non... Petit, je n'offre pas mon dos, moi.
Moi, je veux les voir. Avec l'accent de Marseille.
Ça ne souffre pas la
contestation. Quand même commencé lui aussi, chez Ricard.
Oui.
Chez Ricard, il était directeur commercial, si je m'abuse, chez Ricard. Donc, c'était un type qui était quand même assez, assez fabuleux. Alors, il y a une anecdote avec Pasqua, avec Biré.
Oui, qui est aujourd'hui seconde cuisine à chez Lip, mais qui avait commencé commis et qui avait pas de papier, enfin il avait des faux papiers et donc j'ai essayé de le faire régulariser.
Il avait tout épuisé, toutes les voies administratives.
Toutes les voies, et on avait tout essayé et en désespoir de cause, un jour, je me suis dit, tiens, je vais demander à M. Pasqua, parce que je le connaissais bien, je le voyais souvent, et il s'est occupé de l'affaire, et en 15 jours, ça a été réglé.
Voilà, vous lui avez expliqué que c'était très difficile dans la restauration de fidéliser le bon personnel. Et donc, Pasqua a eu ce geste et vous a donné un coup de main pour...
Tout à fait. Il a convoqué ce garçon dans la salle. C'est
il était
marrant.
Ministre de l'Intérieur, Pasqua, à ce
ouais,
moment-là.
Ouais. Et il s'est occupé de ça. Ça a été très, très bien fait, très rapide et d'une gentillesse.
Et Biré, il est toujours...
Et Biré, toujours là.
Il est toujours chez Libre.
Mais bien sûr, je l'ai vu ce matin.
Prochaine fois que si je vais dîner, j'irai le saluer. Voilà. Et donc, parmi les gens que vous avez rencontrés, que vous avez, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont étonné, qui vous ont épaté, des politiques, des étrangers aussi?
Ah, mais des étrangers dans le cinéma. Alors, on a vu des. Moi, j'ai vu des gens. Moi, je voyais des acteurs au cinéma. Et voilà, un jour, ils poussent la porte tambour et vous les accueillez. J'ai accueilli Lorraine Bacall. Je ne pensais jamais dans ma vie un jour rencontrer Lorraine Bacall. Grégory Peck, qui venait tous les ans pour le festival américain de Deauville. Mais Madonna. Mais cette maison est incroyable pour ça.
Voilà, moi, je me souviens être venu avec Georges-Emmanuel Clancier.
Ah, Georges-Emmanuel.
Je travaillais à ce moment-là avec Robert Laffont et j'avais bien connu Georges-Emmanuel Clancier avec qui j'avais... C'est un type merveilleux.
C'est un type merveilleux qui faisait partie du jury du prix Caz.
Exactement.
Et, à 100 ans, quand il a eu 100 ans, j'ai voulu organiser un petit anniversaire parce que je trouvais quand même 100 ans. C'est un poète incroyable, c'est un écrivain. Et donc, je l'ai appelé en lui demandant s'il voudrait bien accepter qu'on lui fête son anniversaire. Et il m'a répondu oui, chaleureusement. Et le lendemain, il m'a appelé et il m'a dit « Mais j'ai oublié de vous demander quelque chose. Est-ce que je peux venir avec mon épouse ?» Je n'avais pas pensé qu'à 100 ans, son épouse était encore là. C'était une bêtise de ma part.
Elle avait 25 ans ?
Elle en avait...
Non.
Alors, donc, je lui dis, évidemment. Et sa femme, en fait, avait 101 ans. Donc, ils ont débarqué tous les deux. C'était extrêmement attendrissant.
Ah, c'est remarquable, c'est attendrissant. Non, c'est fabuleux.
Ouais.
Bras dessus, 100 et 101 ans, venir manger chez Lip pour un déjeuner ou un dîner.
C'était vraiment très touchant.
C'est impressionné.
Puis j'avais convié ses amis, ses enfants. Ses enfants qui me disaient, Sylvestre, qui me disaient, mon père me fatigue.
Alors, il y a eu un moment, les maisons d'édition ont un petit peu quitté le quartier. Le Seuil est parti, s'est déplacé, Flammarion est allé ailleurs. Est-ce que les gens revenaient de loin pour venir chez Lip où ils s'étaient un peu écartés?
Oui, ils reviennent encore parce qu'ils ont leurs habitudes, leurs écrivains, mais leurs habitudes. Les journalistes sont là. Alors on les voit peut-être moins souvent, mais ils gardent cette habitude.
Il y avait des gens comme Nora, Antoven et tout, chez Grasset, par exemple.
Ils sont toujours là.
Qui sont toujours là, qui viennent régulièrement, quoi. C'est alors, on me dit souvent que chez Lip, la carte ne varie peu. C'est toujours les mêmes plats, c'est toujours un peu répétitif.
Tout à fait, mais on le revendique. La carte est inchangée depuis 75 ou 80 ans. Ce que je vous disais, le mardi, c'est blanquette de veau, le mercredi, c'est bœuf mode, le jeudi, c'est tête de veau, le vendredi, c'est cassoulet. Voilà. Et tout autour gravitent des plats typiquement alsaciens, parce qu'on ne renie pas les origines de l'Alsace. Mais dans un monde où tout change tout le temps, où tous les restaurants autour changent leur carte toutes les semaines, tous les mois, et nous, on n'a pas voulu ça. On a voulu garder cette carte immuable dans son format, dans sa couleur.
Et on vient chez Lip pour déguster.
Exactement. Et j'avais des clients du lundi, parce que c'était le ad hoc, ou le mardi, la blanquette, que je ne revoyais pas dans la semaine, mais qui venaient pour ce plat-là.
Alors, il y avait aussi... Alors, il y a un gars que j'ai bien connu, là, c'était Ali Akbar.
Ouais.
Ali Akbar. Alors, Ali Akbar, c'était le garçon qui vendait à la criée, le dernier, qui vendait à la criée des journaux, qui vendait Le Monde, qui vendait Libé, qui vendait, enfin, des tas de journaux. Et Ali Akbar, je l'ai bien connu parce que, en fait, c'était Cavana au début, qui, quand il était un peu misérable, qui lui avait demandé d'aller vendre Charlie Hebdo.
Ouais, il continue encore.
Formidable ce que vous me dites, parce que je l'ai plus vu depuis pas mal d'années. Et il a commencé dans les années 70 à vendre ses journaux. Il passait dans les restaurants et tout, on lui achetait le journal. Tiens, Ali, donne-moi ça, tu as ça. Oui, j'en ai encore deux. C'était un type formidable, d'une gentillesse et tout. Et il était souvent chez Lip.
Oui, parce qu'il avait, il arrivait à vendre, il vendait Le Monde. Hein. C'était un grand vendeur du Monde. Chez Lip, il pouvait en vendre, dès que Le Monde était sorti, il pouvait en vendre une vingtaine dans l'espace de 10 minutes. Hein. Donc, Puis les clients le savaient, toujours pareil. Des clients habitués qui avaient leurs habitudes, qui n'allaient pas au kiosque en face, parce qu'ils savaient qu'Ali allait passer ils achèteraient le Monde.
Si vous me permettez, c'est lui qui vendait bien son journal en annonçant des fausses nouvelles.
Tout à fait.
Oui, exact. La reine est morte.
Oui.
La reine est morte, la reine est morte, la reine est morte. Et tout le monde se jetait sur le journal et il se marrait, il riait aux éclats et il disait non, c'est pas vrai, mais il vendait le journal.
C'était... Tout le monde l'a connu, évidemment.
Tout le monde l'a connu, c'était une personnalité du quartier. Je dirais que Ali Akbar, comme on l'appelait, Ellipse, c'était deux grandes personnalités dans le quartier. Donc aujourd'hui, LIP aujourd'hui par rapport aux années 70, à cette époque-là, est-ce que vous sentez une modification, un changement, des clients plus différents, plus difficiles, plus...
Non, les clients, alors oui, il y a du changement. Les clients ne sont pas plus difficiles, les habitudes alimentaires ont changé. On ne passe plus 3 heures à table au déjeuner ou 4 heures à table au dîner, c'est beaucoup plus rapide. Les clients font plus attention à ce qu'ils mangent. Donc les additions sont entre guillemets plus légères parce que c'est plus entrée plat dessert, ça sera entrée plat ou plat dessert.
Ouais.
Voilà, c'est là où ça a changé. La clientèle se renouvelle aussi, hein, mais ça reste un phare dans le quartier de Saint-Germain.
Alors votre livre s'appelle LIP est une fête,
ouais.
Et donc c'est un clin d'œil pour moi à Hemingway.
Complètement.
Hemingway qui a fréquenté LIP.
Oui, Hemingway venait souvent chez LIP pendant entre les deux guerres, quand il était jeune écrivain à Paris, qu'il habitait près de Maubert. Il n'avait pas beaucoup d'argent et il venait chez LIP et Marcelin Caz l'avait pris en amitié. Et puis pendant la guerre, il était correspondant dans l'armée et quand Paris a été libéré, il a débarqué en 1944 devant la brasserie à bord d'une Jeep pour venir saluer M. Caz. Et M. Caz lui a rempli sa gourde de cognac.
Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, il y avait plein de personnalités aussi. Jackie Sardou, bien sûr, qui venait. Il y avait Georges Perec. Je me souviens, j'étais jeune dans la profession et je croisais Georges Perec, qui est merveilleux écrivain. Vous avez sans doute connu aussi. Voilà, Charles Lindbergh. Bon, ça m'a épaté, ça.
Oui, mais
Lindbergh est venu chez LIP.
Mais oui, et c'est un truc pareil, complètement. Il traverse l'Atlantique, il arrive au Bourget, il y a une foule incroyable. Et pourquoi il vient chez LIP, on ne sait pas, mais il vient chez LIP. Et en fait, il y a peut-être une explication, c'est que LIP, c'était une brasserie ouverte de 8h du matin à 2, 3, 4h du matin.
Est-ce que ce n'était pas parce qu'Antoine de Saint-Exupéry... Ah non,
c'était peut-être
après.
Aussi, enfin c'était après, mais surtout, il était sûr de trouver une table, un restaurant ouvert. Alors je pense que c'est peut-être ça, ou alors il avait des amis qui connaissaient déjà le lieu.
Parce que LIP avait dépassé largement les frontières de Paris et de la France.
Oui, déjà, oui.
C'était connu partout dans le monde entier.
Et puis c'est un nom qui se prononce bien dans toutes les langues.
Absolument.
Vous voyez, LIP, ça claque, ouais, ça claque en français, mais ça claque en anglais. C'est facile à retenir. Ce qui m'a
fait, c'est que Jean XXIII,
oui,
était venu aussi chez LIP,
oui,
le
cardinal
pape.
Roncalli, quand il était cardinal.
Quand il était cardinal.
Ouais. Il venait déjeuner avec Mgr Veuillot, parce que le cardinal Roncalli était nonce apostolique à Paris. Et il venait de faire des déjeuners avec Mgr Veuillot chez LIP. Et puis, ben, en 1965, il a été élu pape, hein, donc il est parti. Et il avait dit à Mgr Veuillot, mais si on veut se parler, je t'appellerai chez LIP, parce que je suis sûr que là, on ne sera pas écouté, parce qu'il y avait une cabine téléphonique en bas. Et donc, il est élu pape. Et un jour, le téléphone sonne, et il y avait une vestiaire, Madame Berthe, donc qui décroche, c'est elle qui décrochait le téléphone. Et ben, c'est le pape au bout du fil. Donc elle monte dans la salle, elle va à la table de Mgr Veuillot et elle lui dit, elle avait un accent de la Sarthe, c'est une femme adorable. Et elle lui dit, Monseigneur, il y a le pape au téléphone. Et Mgr Veuillot se lève et les gens autour se sont dit, la pauvre Berthe, elle perd la tête. Quoi. Et c'était bien le pape qui était au bout du fil.
Elle lui a dit, je vais vous passer Claude Guittard, il va vous faire un repas formidable. Et là, vous lui avez dit, je suis avec Macha Méril, elle vous attend. Non, c'est fabuleux parce qu'il y avait aussi des gens comme Darry Cole qui ouais. Aujourd'hui qu'on ne connaît plus, si j'ose dire. Il y avait Jackie Sardou, on en a parlé. Il y avait Léon-Joseph Madeleine, Perec, Brassens
qui venait. Mais beaucoup de chanteurs, Nougaro, Brassens.
Brassens venait régulièrement.
Oui, il venait régulièrement. Mais parce que. Voilà, c'est une brasserie, c'est ouvert toute la journée. On peut venir surtout sans réserver. On vient, on pousse la porte. Si vraiment l'endroit est plein et qu'on est prêt.
Alors, est-ce qu'il y a quand même une, une sélection, le quidam qui rentre, qui pousse la porte, je voudrais une table.
On a toujours fait attention à, ouais, à la tenue vestimentaire.
Ouais.
Premier,
ouais.
Parce que l'élégance, c'est bien.
L'élégance, c'est formidable, bien sûr, puis c'est dans le cadre, c'est
les parfait. Garçons sont élégants, le personnel essaie d'être élégant vis-à-vis des clients, donc on a toujours fait attention à cela. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'anecdote de la porte-tambour, mais un client qui prend la porte-tambour dans le mauvais sens, pour nous, ce n'est pas un habitué. Alors,
ouais,
on ne le considère pas moins bien, mais ce n'est pas un habitué, donc il n'aura pas les tables de choix du rez-de-chaussée.
Voilà, puisqu'on parlait de Georges Brassens, on va faire une petite coupe musicale avec...
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rendre comme des harengs, voir en face. La belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse, que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, valasse. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place. Ces trésors exquis qui les embrassent, qui les enlacent, vraiment c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse. L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de gestes garas la casse, car sa main qui claque, punie d'un flic flac, les audaces. Certes, il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornes à ce gros dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
Voilà, écoutez, alors Brassens, c'est fantastique. Fantastique. Avec Gérard Letailleur, on a la chance, on va parler tout à l'heure de son ouvrage sur chez Balzac, un bistrot hors du temps, un café historique, très différent bien sûr de Lippe, mais c'est encore un haut lieu. Un haut lieu parisien. Alors, on ne va pas chez Balzac pour la gastronomie, parce que c'est pas... Mais on y va pour échanger,
pour parler,
pour l'ambiance, pour écouter les copains, pour voir les amis chanter Brassens, et c'est quasi tous les jours, quoi. Voilà. Alors, juste avant de passer, de donner la parole à un ami Gérard Letailleur, pour parler de Balzac, il y a Madonna. Alors, Madonna, il y a une histoire fantastique, parce que Madonna venait.
Oui, Madonna venait. Et alors, par contre, Madonna, elle ne voulait pas être vue. Elle venait, mais elle voulait dîner tranquillement.
Elle allait à l'étage.
Donc elle allait à l'étage.
Elle montait à l'étage.
Bon, on lui réservait l'étage quand même, hein, donc elle était
oui,
sûre de ne pas être dérangée.
Oui, oui.
Elle venait pas seule
après,
non plus.
C'était juste après, en 72. J'étais là, au concert du Parc de Sceaux, avec l'ami André Bercoff. Nous étions allés ensemble au Parc de Sceaux voir Madonna, et qui a... jeter sa culotte à Jacques Chirac, ça a été un truc dont on a beaucoup parlé un peu partout. Voilà. Donc il y a eu chez Lippe des tas de personnalités, on ne peut pas tous les citer, les habitués du samedi soir ou du dimanche soir qui venaient régulièrement.
Oui, surtout le dimanche soir.
Il
y avait le rang du radiateur, cette première salle où les habitués, tous les dimanches soirs à la même heure, étaient côte à côte. Il y avait Jean Dutour à la première table, il y avait Gérard Horry avec Michel Morgan à la deuxième table, il y avait Philippe Noiret à la quatrième table, et ainsi de suite.
Et aujourd'hui, c'est encore comme ça? Il y a aussi des habitués qui viennent, d'habitués qui viennent, qui respectent, si je dois dire, la tradition.
Oui, mais alors le personnel aussi fait respecter un peu la tradition. Je ne dirais pas qu'on est sévère avec nos clients, parce que c'est pas, mais on aime bien que les traditions soient respectées.
Voilà, on va parler de, en parlant de tradition, on a écouté Brassens et on va enchaîner sur Balzac. On va enchaîner sur Balzac. Je voudrais juste rappeler pour nos auditeurs le nom de votre livre. Claude Guittard, L'IP est une fête. Le monde entier défile dans la célèbre brasserie. C'est vrai, c'est toujours vrai. Donc vous ce livre aux éditions du Rocher, dans toutes les librairies bien sûr. Voilà, Claude Guittard, L'IP est une fête. Alors, Gérard Le Tailleur. Alors Gérard Le Tailleur, lui, c'est un monument de l'histoire aussi. Passionné d'histoire, passionné de gastronomie, passionné de un amoureux de Paris. Il a écrit plusieurs livres. J'ai devant moi l'histoire insolite des cafés de Paris, qui est une petite merveille. Et là, il a sorti, chez Balzac, l'histoire de ce bistrot qui est tout à fait aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, hors du temps. C'est quelque chose de spécial, ce bistrot qui est installé au 75 rue Brancion. Il n'y en a qu'un en Paris, je crois, comme ça.
Oui, il fait partie des tout derniers, en fait, du moins bistrot dans l'esprit de ce que l'on appréciait il y a encore quelques années. C'est un bistrot qui est né en réalité en 1953 du bon vouloir d'un boxeur, un grand champion de boxe. Il s'appelait Yannick Balzac, qui était champion d'Europe, qui était un ami de Marcel Cerdan et qui a voulu se reconvertir au moment de prendre sa retraite. Et donc, il a finalement repris ce... C'était un restaurant corse, hein. Bon, mais lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Il voulait un bistrot pour recevoir
polonais,
ses copains.
Il n'était pas corse, lui. Hein.
Il était polonais. Yannick, c'est Jean, d'ailleurs.
Yannick.
Jean Balzac. Et ce Jean Balzac, donc, en 1953, il ouvre au 75 rue Brancion ce bistrot. Avec une arrière-pensée, parce que il venait du monde sportif et tous ses copains venaient du monde sportif.
Donc, c'était un bistrot, c'était pas un restaurant.
Non, c'était un bistrot au départ, bistrot. Absolument. Et alors, bon, bien sûr, par la suite, comme il est situé devant ce qui jadis étaient les abattoirs, les abattoirs hypophagiques de Vaugirard qui étaient en face. Donc, tous les gens qui travaillaient aux abattoirs venaient aussi. C'est le soir, voilà, où tous les week-ends, on peut venir voir des vieux bouquins encore qui ont. D'ailleurs, ça a beaucoup de succès et j'essaie d'y aller d'ailleurs très souvent lorsque je peux. Et donc, ce café ouvre en 1953 et beaucoup de gens d'ailleurs du monde sportif vont commencer à faire, enfin beaucoup, certains vont faire du cinéma. Dont Lino Ventura, qui était son grand copain, André Pousse aussi, le cycliste qui sera restaurateur aussi.
Un voyou aussi.
Il fera beaucoup de cinéma. Et il a même été embauché par le Moulin Rouge à une certaine époque. Et donc, ça, c'est bon pour la petite histoire. Donc, Brassens vient de temps en temps parmi la clientèle parce qu'il habitait à côté. Il habitait tout d'abord en impasse Florimont, rue d'Alésia, chez la Jeanne. Il aimait, alors curieusement, on peut ouvrir une petite parenthèse, Brassens aimait les femmes souvent plus âgées que lui. La Jeanne, elle avait quand même 30 ans de plus que lui. Elle vivait avec Marcel, donc c'était un ménage à trois quand même. On peut quand même fermer la parenthèse. Poupchène, son amie Poupchène, elle avait une petite dizaine d'années de plus que lui. Et puis Georgette, la femme de Jean Balzac, elle était aussi un petit peu plus âgée que lui. Alors, il venait... Bon, peut-être un peu lui faire la cour quand même, quelque part. Quand il passait de devant, il rentrait. Jean, donc Yannick, il faisait un peu la tête. Mais il dit, tiens, il va encore demander des nouvelles de Jo, de Georgette, donc de Jo. Et bien sûr, c'est ce qu'il ne manquait pas de faire. Et puis, ça faisait monter un peu la tension quand même. Alors un jour, ça a même failli mal tourner. Alors Brassens s'est assis sur une petite table à côté du bar. Il a pris une feuille de papier, il a sorti un crayon, puis il a commencé à écrire. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, est un vieux bistrot tenu par un gros... Bah, dégueulasse, on vient de l'entendre. Pardonnez-moi. excusez-moi pour la rime, etc. Il a écrit ce texte-là, loin d'imaginer que ce texte allait être traduit en 50 langues et faire le tour du monde. Ça, c'est un peu la magie de l'histoire de Balzac et de Brassens, que j'ai eu le bonheur de connaître tout petit même, hein, puisque j'habitais...
Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'étais très ami avec... Ouais. Un garçon que vous avez peut-être tous connu, Louis Nucera.
Ah bah oui, bah c'était
Louis Nucera, avec qui je faisais beaucoup de vélo, qui était avec son accent niçois, et il me parlait, tu viens. Et un jour, je le croise, boulevard Saint-Jean, je ne sais plus où, je le rencontre, sortais du restaurant, il me voit, il me dit, viens avec moi, avec son accent niçois, on va boire le café chez Georges. Et moi, je partais au bureau chez Georges, qui Georges? Mais chez Georges, comme si c'était évident. Mais viens. J'ai fait, mais écoute, j'ai un quart d'heure, là, on va chez Georges. Et j'ai débarqué chez Brassens, voilà. Et donc j'ai rencontré une fois Brassens, et là je ne l'ai pas revu beaucoup.
Oui, puis après il habitait rue Santos-Dumont, juste derrière chez Balzac, en plus. Donc il était tout le temps pratiquement à côté de chez Balzac. Il faisait un crochet en général, il venait saluer, puis il aimait beaucoup Yannick, hein, qui était un personnage aussi haut en couleur.
Alors quand on va chez Balzac, il faut y aller, il faut absolument y aller. C'est un décor phénoménal. Il y a les photos d'époque, il y a des photos de Brassens, des dédicaces, des trucs collés sur les murs et tout. C'est vraiment un lieu...
Il y a même une tête d'hippopotame.
Il y a une tête d'hippopotame qu'il avait échangée, je ne connais pas trop l'histoire.
Ah bah, ils sont en 10 secondes et la suivante est très drôle.
On lui avait donné
cette
tête.
Un jour, il y a deux gars qui rentrent au moment de l'apéritif, qui rentrent chez Balzac. Et puis alors, ils commencent à boire un peu plus qu'ils auraient dû, d'ailleurs.
Oui,
et puis en plus, ils invitaient les gens qui étaient là, y compris les gens des abattoirs qui arrivaient. Allez, une nouvelle tournée, patron, une tournée. Et puis l'ami Yannick, il voyait la note monter. Alors à un certain moment, il a dit, bon, bah, écoutez les enfants, c'est bien là. Actuellement, on en est à temps. Moi, je vous propose quelque chose. Vous me réglez ce que vous me devez. Puis après, si vous voulez continuer, bah, ma foi, ça serait avec plaisir. Alors les gars, ils fouillent dans leur poche, ils trouvent rien, ou pratiquement rien. Alors l'un des deux, alors là, il commençait à changer de couleur un peu, l'ami Yannick. Il était quand même l'ancien champion d'Europe de boxe, il ne fallait pas trop le chauffer. Alors, l'un des deux lui dit, bon patron, vous ne faites pas de soucis, on va arranger ça. Et il s'en va, il avait son camion qui était garé presque en face, il revient avec cette immense tête d'hippopotame.
Qui est toujours au-dessus de...
Il y avait aussi une vieille tortue, mais je dis vieille, attendez, vous allez comprendre qu'elle a été vraiment très très âgée, dans quelques secondes, elle n'est plus d'âge. Et en fait, là, il propose un troc. Bon, je vous laisse ça, etc. Alors, Yannick, il les a prié de partir, et puis il s'est retrouvé avec cette tête d'hippopotame qu'il a accrochée à son mur, et quelques jours plus tard, il y a un gars qui vient voir Yannick, il dit, tu les connais les deux gars, tu sais, qui sont venus l'autre fois, qui t'ont amené cette tête, on dit, on ne me parle plus de ces gars-là, je ne veux plus les voir, non, c'est une catastrophe. Eh bien écoute, tu sais ce qu'ils font comme métier? Pas du tout. Ben, tu sais que ce sont des déménageurs, et en fait les gars étaient en train de déménager une aile du muséum d'histoire naturelle. Et bon, alors après ils se sont arrangés avec le muséum, mais c'est une histoire absolument pas possible. C'était très drôle. Donc les personnes qui viendront 75 rue Brancion chez Balzac auront l'occasion de voir cet hippopotame. Et un jour, il y avait la malheureuse Françoise Hardy qui était assise juste devant, et elle a regardé la tête d'hippopotame, elle a regardé les gens, puis elle a dit, puis j'étais pas bien loin, j'ai entendu dire avec sa petite voix, mon Dieu, quel endroit étrange.
Alors, ce qui est formidable, Gérard Le Tailleur, dans votre livre, c'est que vous nous racontez à travers Balzac l'histoire de Paris. On découvre Paris, mais on remonte très loin et on arrive juste à ce bistrot, je ne sais pas comment elle disait, cette guinguette, ce bistrot du hors du temps de chez Balzac.
Ben vous savez, quand on a envie comme ça d'écrire l'histoire d'un bistrot, ça peut se limiter à quelques anecdotes. Et puis, au bout de 50 pages, bon, on tourne un peu en rond quelque part. Non, ce que j'ai voulu faire, c'est présenter cet ouvrage dans le cadre du quartier déjà, donc Plaisance. Toute l'histoire de Plaisance, mais on peut en quelques dizaines de pages, comme je l'ai fait, résumer tout cela. Par exemple, une anecdote parmi tant d'autres, au XIIIe siècle, bien sûr, tout appartenait à l'Église. Hein. C'était le prieur de Saint-Germain-des-Prés, d'ailleurs, qui avait un droit de regard sur tous les terrains qui étaient là. Et à un certain moment, Girard de Moret, le prieur, donc, décide de construire une petite maison, pas très loin d'ailleurs de chez Balzac, pour servir d'abri aux ecclésiastiques en fin de vie ou malades ou autres. Donc ils vont faire une très jolie demeure, ils ne savent pas comment l'appeler. Et donc ils vont appeler ça le Val Girard. par altération, ça va devenir Vaugirard. Voilà comment, des anecdotes comme ça, il y en a dans tout Paris.
On sent que vous êtes un amoureux de Paris et que vous avez une connaissance de Paris. Paris, fantastique.
J'écris là, beaucoup aussi sur Montmartre, mais chaque pierre a son histoire à Paris. C'est ça la magie de Paris. Ouais, ouais. Et donc, et quand on est amoureux de Paris, on rêve. J'écoutais Monsieur Guittard à l'instant, là, qui a cité le nom de bon nombre de personnes qui venaient et qui continuent peut-être de venir, d'ailleurs encore, bien sûr, aujourd'hui, chez Lippe. C'est pareil, c'est une grande famille, en fait. Un établissement, c'est une grande famille. Y compris, bien entendu, avant tout, les personnes qui y travaillent. Voilà. Donc, c'est une histoire d'amour, en fait.
Oui, c'est une passion, c'est un... Oui, tout à fait.
Ah oui, il faut être passionné. Il faut passer 12 à 15 heures par jour, il faut être passionné.
Mais je crois qu'il y a des métiers comme ça, qui sont comme l'édition, par exemple. C'est un métier de passion. Ouais. J'ai 40 ans d'édition, c'est un métier de passion, de rencontre, d'aventure, et des gens que j'ai rencontrés, des souvenirs, des... Des fois, je me dis, ah, mais un tel, tiens, je l'ai vu, qu'est-ce qu'il... Enfin bon, on a fait ça ensemble et tout. J'ai une personne, alors ça, c'est pour Lippe, ça s'adresse à vous, Claude Guittard, qui nous dit, à propos d'André Pousse, il était du Moulin Rouge.
Oui.
Il y a des restes, des photos avec Elvis Presley et Nancy Holloway. Nancy Holloway, que j'ai connu aussi. Elvis, je ne l'ai pas connu, mais Nancy, oui. Et le Moulin Rouge qui va fêter ses 150
ans. Je viens de faire un article important qui va sortir donc le 4 octobre dans Montmartre en Revue sur toute l'histoire du Moulin Rouge. Je fais partie de la République de Montmartre et on m'a demandé de faire un article sur ce thème et donc avec grand plaisir pour fêter les 135 ans du Moulin Rouge.
135 ans, d'accord, je croyais que c'était 150.
On 135. Parlait d'une grande famille, mais le Moulin Rouge, c'est 450 personnes qui travaillent. C'est énorme, c'est 240 000 bouteilles de champagne par an, 50 000 bouteilles de vin, 700 seaux de champagne en argent qui circulent sur les tables en permanence.
Bon, je vous rassure, voilà. Les premières danseuses du Moulin Rouge, il y a 135 ans, ne sont plus là, ne dansent plus.
Non. Il y a même une anecdote un peu... je voulais vous parler de la Goulue simplement, qui est morte à la Riboisière, donc pas très très loin finalement du Moulin Rouge, entre les bras d'un prêtre. Et elle lui a dit au prêtre, mon père, est-ce que Dieu va me pardonner? Alors il la connaissait pas sur le moment, bon, et elle a demandé à un prêtre. Alors il s'approche de cette brave femme qui n'avait que 62 ans, mais quand faisait quand même beaucoup plus, eu égard à la vie.
À l'époque.
Alors le brave prêtre, il la regarde, et puis elle lui dit, mais pourquoi? Elle lui dit, je suis la Goulue. Et elle est morte dans ses bras, donc c'est quand même émouvant.
Alors il y a une personne qui nous dit, bravo pour votre émission, fantastique et tout, une question de Béotien, alors là, on peut répondre, mais je crois que je vais laisser Claude Guittard le répondre. C'est est-ce que Lippe a un lien, même lointain, avec les montres, sans parler du désastre économique des années 70 en Besançon?
Non, alors Lippe n'a aucun lien avec les montres Lippe, un seul P, mais Fred Lippe, que j'ai bien connu, le créateur et fondateur de la marque de montres, venait souvent chez Lippe. Avait fait une soirée dans les années 80 où il avait fait des cartons d'invitation qui étaient assez drôles, où il disait Fred Lippe reçoit chez Lippe. Il y avait tout un jeu de mots avec le Lippe 1P et le Lippe 2P. Et je l'ai connu, il venait à la fin de sa vie avec sa dame de compagnie et il voulait une table bien précise pour voir les jolies femmes rentrer chez lui.
Alors une question d'un autre auditeur qui nous dit, de toutes les brasseries du quartier, laquelle est la plus ancienne et encore en activité? Le Procope, je pense, non?
Ah, le Procope, bien sûr, c'est 186. D'ailleurs, le mot café vient de là, d'ailleurs. C'est une longue histoire, mais ça vient du Kawa, amené par les Ottomans à l'époque, qui avaient présenté ça à Versailles. Et puis, il y avait monsieur Procope qui était là, donc Procopio del Coltei, sicilienne, donc qui était là. Et puis, l'histoire a commencé après.
Alors, cet auditeur nous dit, excellente émission, on se régale. Oui, c'est le mot régaler qu'il faut employer dans cette émission du boire et bien manger. On va en parler après, tous les deux, du dictionnaire. Voilà, et donc, Lippe, la vie a continué, ça s'est installé, les gens sont venus, les générations continuent, et l'histoire de Paris s'est gravée autour de... Ou Lippe s'est gravée autour de l'histoire de Paris, plutôt. Et aujourd'hui, alors?
Balzac. Alors, aujourd'hui, ça continue, Dieu merci. Ça s'est arrêté très momentanément après, j'allais dire, le Covid, là, comme bon nombre de petits établissements qui ont été touchés de plein fouet donc, par l'épidémie. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu des repreneurs. Ils sont trois. Ils sont adorables, ils sont formidables. C'est pratiquement le même prix. Il faut dire que c'est à volonté. Hein. Bon, le vin, tout ce qu'on mange, on mange très très bien d'ailleurs.
C'est beaucoup mieux qu'avant.
C'est beaucoup mieux qu'avant. Et puis, le mardi, entre autres, mais le mardi midi, il y a beaucoup d'amis qui viennent avec leur guitare et qui chantent Brassens. Et puis, il faut faire attention d'ailleurs, puisque le déjeuner peut devenir un peu dînatoire si on fait.
Oui, parce que ça se termine. Je fais partie de ces amis qui viennent le mardi, où on se retrouve avec un certain nombre de personnes, le dessinateur Jacques Redon, entre autres, et plein de personnalités. Et là, on chante Brassens et tout, et
Pierre et Tony, pour pas les citer.
Souvent, vous regardez la montre, il est 16h et tout le monde est en train de chanter. C'est vraiment un des lieux un peu magique pour ça, quoi. Voilà, le vin coule à flot. Moi, j'ai un moto, alors je suis très
bon. Pour faire très attention.
Et les nouveaux patrons, les nouveaux propriétaires sont plutôt sympathiques.
Oui, ils ont compris que Valzinck, ça touche la passion. Donc c'est vraiment un univers passionnel. Donc ils n'ont rien changé à la décoration. On retrouve exactement toutes les photos encadrées. À chaque fois, ce sont des souvenirs bien précis. Moi, j'ai eu le bonheur, par exemple, à l'époque, vous avez dû voir Monsieur Claude Guittard aussi, Jean-Paul Belmondo qui venait. Jean-Paul venait souvent chez Valzinck aussi, et à plusieurs reprises, on s'est vu avec Christian Brincourt d'ailleurs, et puis Charles Gérard aussi. Voilà, ils étaient toujours ensemble. Eh bien, ça a été un plaisir donc d'être avec eux. Et un jour, donc, comme je préparais ce livre, j'ai dit bon, on se tutoie facilement chez Valzinck. Alors, j'ai dit Jean-Paul, on serait très heureux de t'associer à ce livre. Est-ce que tu accepterais d'intervenir en tant que préfacier? Et il m'a dit oui. Alors moi, j'étais très heureux d'avoir Jean-Paul Belmondo comme préfacier pour cet ouvrage. Et puis, il était gentil. C'est vraiment un homme qu'on regrette tous, parce qu'il était très, très chaleureux.
Très amical, très simple.
Et la préface de Jean-Paul Belmondo est très agréable et fantastique. Elle est illustrée par un dessin de Jacques Redon qui est aussi magnifique. Et c'est étonnant de voir aujourd'hui ce livre chez Valzinck, Un bistrot hors du temps, un café historique, préfacé par Jean-Paul Belmondo, aujourd'hui grande icône du cinéma. Quoi.
Ben on était avec Jean-Paul Belmondo, mais c'était la simplicité même. Il était vraiment très accessible. Et puis, il se prêtait au jeu, d'ailleurs. On venait avec Michou aussi de Montmartre.
Ce qui est étonnant, c'est de voir dans cet endroit-là, Gérard parlait du tutoiement, on se tutoie habituellement tous les deux aussi. C'est la manière dont les gens se tutoient. On peut avoir un gros magistrat avec le truc, tout le monde se dit tu, il y a une espèce d'amitié, de sympathie, il n'y a pas de différence de costume, de truc et tout.
Ce sont des lieux de haute convivialité, les bistrots, les cafés, les restaurants.
C'est des lieux de grande convivialité, de grande sympathie et tout. On va passer maintenant un petit bobino. Et puis on reprend l'émission très vite après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, donc on a encore un message. Alors là, j'ai pas compris, il a été dit que le café a été introduit en France, Louis XIV, par des Ottomans, dites-vous, mais n'est-ce pas plutôt par des Arméniens.
Alors,
Gérard.
Non, voilà, je vais être un petit peu plus. Alors, je vais être un petit peu plus précis pour répondre à notre ami auditeur. Là, c'est bien avant, on est en 1669, et vous avez l'ambassadeur de la Porte Sublime, c'est-à-dire l'ambassadeur de Turquie, on est aujourd'hui, qui est invité par Louis XIV à Versailles, et il se retrouve devant la cour. Et parmi, justement, les personnes qui se trouvaient là, il y avait, la personne a raison, il y avait des Arméniens qui ont lancé, après, avec Procope, comment dirais-je, ce restaurant qui a commencé, d'ailleurs, rue de Tournant. Et qui, après, donc, a été... ils ont été submergés grâce à leur succès. C'était rue des Fossés Saint-Germain à l'époque, maintenant c'est rue de l'Ancienne Comédie, donc, mais ça n'a absolument pas changé. Mais en fait, donc, c'est les Turcs en réalité, ce sont les Ottomans qui ont amené à Versailles, c'était des petits-enfants très sympathiques, ils avaient des petites tasses sur des petits plateaux dans lesquels il y avait le fameux kawa, et tout le monde va découvrir le kawa, y compris Louis XIV, qui va trouver ça trop cher à 40 francs la livre et beaucoup trop amer. Il va même pas en offrir à ses invités personnels le soir à Marly, parce qu'il vivait plutôt à Marly qu'à Versailles. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, ce sont les Turcs. Le kawa, donc, est arrivé à Versailles. Mais en revanche, la personne a parfaitement raison, ce sont les Arméniens, deux Arméniens, qui s'appelaient Audubon et Pascal, d'ailleurs, qui vont embaucher après le petit Procopio del Coltelli, qui va devenir François Procope. Et puis après, même si on rentre un tout petit peu dans les détails, il va avoir une chance inouïe. C'est qu'à l'époque, les comédiens français chassés par les jansénistes cherchaient un endroit pour créer le premier théâtre français. Et juste en face, chez Procope, il y avait un jeu de paume qui était tenu par un sieur de l'Étoile. Et ce jeu de paume, eh bien, au niveau des volumes, c'est tout à fait ce qui correspondait pour faire un théâtre. Et Louis XIV a financé l'opération, et c'est comme ça qu'est né le théâtre français. Donc, vous imaginez bien que toute la clientèle allait après chez Procope, d'où le succès.
Voilà, et je rappelle que c'est rue de l'Ancienne Comédie.
Oui, l'Ancienne Comédie aujourd'hui, l'ancienne donc comédie anciennement, aujourd'hui, donc
Procope. Voilà. Le théâtre, alors c'est un immeuble aujourd'hui, mais il y a, pour l'avoir vu il y a quelques années, j'espère que ça existe toujours, il y a dans les combles, je dirais, de ce bâtiment qui est en face du Procope, on retrouve encore les poulies du théâtre qui sont encore... Encore là-haut.
Et juste à côté, il y a aussi un endroit un peu sinistre. C'était pourtant une imprimerie. J'adore les imprimeries, mais c'était celle de Marat qui était quand même. Et alors, au premier étage du Procope,
terminé.
Au premier étage du Procope, Marat venait écrire son ami du peuple. Pour, bon, je ne vais pas mettre de qualificatif. Les gens comprendront que ce n'est pas véritablement ma tasse de thé. Et puis, à l'extérieur, donc, il se mettait près de la fenêtre, et à l'extérieur, il y avait une petite clochette. Et quand il avait terminé d'écrire, il actionnait la petite cloche. Donc quelqu'un dans l'imprimerie l'entendait, se précipitait pour récupérer la feuille, qui était immédiatement traitée à l'imprimerie en caractère mobile, fondu à neuf, etc. Et ensuite, c'était imprimé tout de suite et distribué dans tout le code. Donc c'est comme ça que ça allait très très vite. Voilà. Donc, et puis Marat était là avec il y avait Robespierre, il y avait Danton, il y avait enfin tout le monde se précipitait dans ce premier grand café. Voilà, et puis on avait même une anecdote assez drôle, on avait, comment dirais-je, de temps en temps Voltaire, alors là on est plutôt côté 18e siècle, Voltaire qui en voulait à tout le monde, hein, parce que Voltaire était assez jaloux des gens qui touchaient des droits d'auteur. Lui en touchait très peu, parce qu'il vendait mal d'ailleurs ses œuvres, à part ses contes et nouvelles. Alors un jour, il passe devant quelqu'un...
Il est déçu, là, il en touche plus du tout.
Et il y avait quelqu'un qui, lui, en touchait beaucoup. L'histoire naturelle, donc c'était Buffon. Et il voit Buffon, il dit, c'est vrai, vous, monsieur Buffon, vous en gagnez de l'argent, puis rajoute méchamment avec vos coquilles. Voilà, ça c'était, je raconte de temps en temps cette anecdote, elle est assez type.
Voilà, typique. Là vous êtes tout à fait dans l'esprit de chez Balzac, là vous voyez, les histoires s'affusent, la culture, on échange et tout. Alors il y a la chose la plus formidable, c'est que Balzac, à un moment, j'ai eu très peur, on en parlait, a failli disparaître parce que ça a été vendu. Et on s'est dit, bah, c'est foutu, quoi. Bon, et on était tous un peu orphelins de Balzac. On cherchait un bistrot, un endroit pour se réunir, pour échanger, pour être là. Et puis, on a eu la chance, Gérard, on parlait, le tailleur, on parlait tout à l'heure, d'avoir des repreneurs qui ont repris Balzac, qui ont refait des travaux. Quand je dis qu'ils ont refait des travaux, ils ont nettoyé, repeint, refait le bistrot en gardant exactement la même configuration, c'est-à-dire jusqu'au cadre, l'hippopotame qui se retrouve au même endroit. Là, ils ont gardé et vous rentrez dans cet endroit. Il y a une porte, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien. Vous tapez au carreau
Il y a quelqu'un qui vous la porte, qui regarde et qui vous fait rentrer un petit peu peut-être comme chez Lippe en fonction de la tenue. C'est vrai qu'on voit rarement des gens arriver en nœud papillon et en smoking chez Balzac, mais et on fait rentrer et les gens comme ça. Et là, il y a un repas qui est aujourd'hui très convenable avec un buffet à l'entrée. Discrétion, là. Le vin est aussi à discrétion, des bouteilles sont sur la table. Ils ont pris du très bon vin l'autre fois, hein. J'ai trouvé que le vin était amélioré. Mmh. Et puis, il y a deux, trois plats principaux où vous choisissez, toujours des plats, ce qu'on peut appeler des plats canailles, il y a des plats très français, quoi, voilà. Et puis, alors le dessert, ça va du baba au rhum. Il n'y a pas le millefeuille de chez Lippe, je le regrette. Mais voilà, c'est un bel endroit. Et si vous passez du côté de la rue Brancion au 65, en face du square Georges Brassens. 75, pardon. N'hésitez pas, poussez la porte de Balzac. C'est un bel endroit. Voilà, on va faire une petite... coupe musicale, il est 13h, il nous reste une petite demi-heure. Alors là, on va parler avec Jean-Claude Ribaud juste après du dictionnaire gourmand du bien boire et du bien manger. Je vous présenterai Jean-Claude Ribaud qui, lui, est un véritable historien et qui a fait de très nombreux livres. Là, qui est un chroniqueur, qui est un grand spécialiste de la gastronomie, de la cuisine. Et on va parler de ce dictionnaire qui n'est pas encore sorti. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir... grâce à votre brillante attachée de presse, les bonnes feuilles, elle était très efficace, elle m'a tout envoyé, et on va parler de ce dictionnaire. Et les dictionnaires, ça me parle, parce que vous le savez sans doute, mais comme j'étais un des dirigeants de la maison Larousse pendant pas mal d'années, voilà, je connais les dictionnaires, on va en parler.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Eh bien voilà, encore Brassens. Alors j'ai demandé à Gérard Le Tailleur, qui a une culture phénoménale, de nous parler, de nous présenter, de nous raconter l'histoire de cette chanson, Les Copains d'abord.
C'est très drôle. En fait, au début des années 60, ils ont voulu adapter une œuvre merveilleuse d'ailleurs de Jules Romain, Les Copains, au cinéma. Ils en ont fait un film. Le film est passé, bon, a pas eu véritablement beaucoup de succès. Il y avait, je me rappelle, parmi les jeunes acteurs, il y avait notamment Henri Tizot, qui était de la Comédie française, qu'on a connu en tant que imitateur du général de Gaulle, la dépigeonisation, ça me revient. En revanche, ils ont demandé à Georges Brassens de faire la musique du film. Et cette chanson, donc, a été faite pour ce film-là. Alors, on a oublié le film, Les
il
Copains.
Il
n'a
eu aucun succès, le film. Hein.
En revanche, la musique, ben,
la musique
ouais,
et les paroles,
elle passe encore en permanence, oui.
J'ai un éditeur qui nous pose une question. Paris était rempli de tavernes. Soudain, avec le Procope, sont apparus les cafés. Quelle différence entre tavernes et cafés, qui sont tous les deux des lieux de réunion, effectivement. Ce changement de mots n'est-il pas dû au snobisme ?
Ah, pas du tout, non, non. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que le café, c'était un endroit où on ne buvait pas d'alcool. C'était ça la grande différence. Que dans les tavernes, les gens venaient boire, beaucoup. pour la première fois donc à Paris, on va avoir un lieu de grande qualité où les gens vont pouvoir se réunir. Donc il ne va pas y avoir de rixes, puisque les gens ne boivent pas. Et puis tous les auteurs, les gens qui bougeaient beaucoup, vivaient dans des, on peut dire, des galtas, c'est-à-dire des tout petits appartements, pas dire des studios dans Paris, on y a des studios maintenant, et ils avaient besoin de se réunir entre amis. Donc, d'où le côté ostentatoire de la décoration du Procope. Donc, en fait, la grande différence, c'est qu'on ne buvait pas d'alcool, c'est ça.
On assiste aujourd'hui à la création de pas mal de cafés, c'est-à-dire des endroits où on ne boit que du café le matin. C'est-à-dire qu'en là, il y a, par exemple, en face de chez moi, il y a un truc qu'ils appellent Noir. On ne boit que du café. Il y a trois tables dehors, c'est le café, éventuellement chocolat ou autre, mais c'est que du café, pas d'alcool, pas de nourriture, rien.
Et d'ailleurs, dans les cafés, les femmes n'avaient pas le droit, y compris d'ailleurs chez Procope, d'entrer à l'époque. Et c'était que les hommes. Alors Procope s'est dit, je perds quand même une partie de ma clientèle. Alors il a eu une idée. Côté cours, il a créé la première terrasse. Donc les femmes venaient quand même, et elles restaient à l'extérieur, elles s'asseyaient à l'extérieur, elles consommaient à l'extérieur.
Alors, quand c'est pas femme sous la pluie à Paris en ce
mais
moment.
Mais voilà comment sont nées les terrasses alors. Et comme ça a eu beaucoup de succès.
C'est du propre. Hein. Voilà, alors Jean-Claude Ribaud, Dictionnaire gourmand du bien boire, bien manger, le livre sortira le 15 octobre, le 14 octobre. M'a dit Sylvana Bergonzi, votre brillante attachée de presse, efficace. Alors Jean-Claude Ribaud, vous êtes chroniqueur, vin et gastronomie, notamment au Journal du Monde de 1989 à 2012. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages qui ont trait aux épices, au vin, au pain, au cigare. Voyage d'un gourmet à Paris, paru en 2014 chez Calvin Lévy, a eu le prix Jean Carmé. Et là aujourd'hui, vous avez publié une dizaine de livres et aujourd'hui vous attelez un gros travail, le dictionnaire gourmand du bien boire et du bien manger.
Alors, c'est un dictionnaire en raison de l'usage de l'alphabet pour classer un certain nombre d'éléments purement thématiques qui n'ont pas nécessairement de rapport entre eux, mais c'est bien ça un dictionnaire, c'est ce qui est la règle, c'est la lettre. La lettre
A, B, C, par ordre alphabétique.
Oui, voilà, Abba, Aïe, Aïoli, Aleno, par exemple. Donc, ça n'est pas du tout un dictionnaire comparable aux grands textes que vous avez connus, bon, les dictionnaires soit littéraires, soit historiques, etc.
Sûr.
Ou les dictionnaires gastronomiques.
Il c'est pas chez quelques... Larousse entre les noms propres, les noms communs, par exemple.
C'est ça. Alors, chez Larousse, il y a un dictionnaire gastronomique qui est connu depuis 1938. C'est celui de Prosper Montagnier, qui reste assez inégalé. Car les éditions successives, bon, sont, disons, moins précises. et un peu anecdotique parfois. Bien qu'elle ait été, l'année dernière, à ma connaissance, pilotée, ou du moins faite sous le contrôle de Joël Robuchon.
Exact.
Il y a une quinzaine d'années, je pense. Hein. Je crois qu'il n'y a pas eu de réédition depuis. Mais la grande référence, évidemment, qui est inimitable, c'est celle d'Alexandre Dumas, qui n'était pas un cuisinier, qui était un amateur, un écrivain surtout, extrêmement prolifique, et qui a fait un travail dont il espérait, dans le fond, qu'elle serait l'oreiller de sa renommée, puisqu'il a fait ça les deux dernières années de sa vie. Il dit, bon, ben, au moins, j'aurais fait quelque chose d'intéressant qui m'assurera une gloire.
Il pensait que c'était l'œuvre qui allait rester dans l'histoire.
Il l'a écrit, oui, absolument. Alors que le milieu professionnel l'a accueilli très méchamment. Il y a des erreurs d'indication, etc. Enfin, bon, ce n'était pas des recettes qui étaient faites dans le modèle de ce que faisait à l'époque soit Jules Gouffet, soit Urbain Dubois, ou qu'avait fait avant eux, Escoffier, ou au même moment, d'ailleurs. Et il a donné un espèce de modèle, mais auprès duquel mon travail n'a rien de comparable. En fait, cette classification alphabétique, quand on rassemble les thématiques que j'ai fait pour comprendre un peu de quoi il s'agit, vous avez des portraits, des balades, quelques descriptions de restaurants, mais très peu. Hein, c'était pas l'essentiel. Mais en revanche, des portraits de chefs, oui, et qui sont, dans le fond, le résultat de 50 années de
recherche, de travail.
De recherche, non, de repas.
De repas, oui.
J'ai bouffé pendant 50 ans, midi et soir.
Dans des restaurants.
Dans des restaurants. De France et de Navarre, et un peu d'étrangers. Donc, voilà. Donc, c'est une.
C'est ce que j'appelais le travail, quoi. Ah, hein, en plaisantant.
Mais non, mais.
Alors, c'est ce qui m'a surpris au départ.
Je vais vous préciser un truc. J'ai trouvé une citation formidable de Pascal Horry qui dit « Le gastronome, dans son type achevé, n'est pas un cuisinier de profession. Il est homme de lettres, au moins en amateur. Sa vraie table n'est pas celle où il mange, mais son bureau où il écrit, tout bien pesé et digéré. La chronique ou le traité. » Formidable.
C'est beau. Alors, c'est ce qui est très curieux, quand j'ai reçu les bonnes feuilles, alors j'ai commencé, je vois Aïe, alors je lis Aïe, et la ligne au-dessous, je vois Aléno, Yannick, que je connais, qui est un ami que je connais très bien.
Oui.
Et alors, quand vous parlez du bureau, c'est très drôle, parce que quand Yannick était au Lutetia, je crois,
au Meurice,
j'allais déjeuner avec lui, il me disait, viens déjeuner avec moi dans mon bureau.
Oui, c'est ça.
Et je descendais au sous-sol du Meurice, et il me dit, tiens, je vais te faire goûter. Voilà, c'était le bureau, quoi. Et alors après, on bascule de Aléno, on bascule à Anchois, on bascule à Jean-Marie Amat et Jean-Paul Aron.
Oui.
Alors c'est étonnant que vous parliez de Jean-Paul Aron, c'est merveilleux.
C'est un personnage très
que
important.
J'ai connu à l'époque, oui, chez Robert Laffont. J'étais très jeune et ça faisait partie des gens que je côtoyais, quoi.
Le mangeur du 19e siècle. C'est son titre phare.
Dans ses ouvrages.
Ouais. Et il a écrit sur les sauces des choses assez judicieuses. C'est un clarificateur, c'est un personnage que je n'ai pas connu, moi, qui était sans doute un gourmet.
Ah, un gourmet, un grand type,
oui, oui,
de l'âge chauve, qui était...
Et pratiquant.
Je le vois, oui, oui, oui.
Très,
oui,
très,
oui,
pratiquant.
Oui, oui. Ah oui, oui. C'était... après, on parle de Jean-Paul Aron, on parle à Axoa. Alors là, fait danser les filles du Pays Basque.
L'Axoa est un plat du Pays Basque qui est fait avec des tomates, du poivron, du piment d'Espelette, évidemment, un petit trait de vin du pays, le Lirulegui. Car dans ce dictionnaire, je donne aussi pas des recettes savantes, mais quelques manières de faire, quelques tours de main qui peuvent, dans le fond, être utilisées pour un cuisinier amateur. Il n'y a évidemment pas de temps de cuisson ou de poids précis des ingrédients, encore que parfois peut-être, mais de manière à rendre ça un peu amusant et utile pour un lecteur curieux.
Alors c'est a priori, alors j'attends avec impatience, et j'espère que Sylvain Lam l'adressera dès qu'il sortira, on se reverra peut-être, j'attends avec impatience, parce que là j'ai picoré, on picore dans votre dictionnaire. Oui, oui. Si j'avais José, je dirais comme un paquet de cacahuètes, quoi. On va chercher.
Oui, très bien.
Là, et alors vous parlez de Martinique, par exemple, la sauce au chien, le courbouillon de
chien.
Passion.
C'est un truc formidable.
La sauce au chien, oui.
Tout le monde
se
dit que. Peut-être Trump serait intéressé par cette recette, mais enfin bon. Non, il s'agit d'une sauce martiniquaise qui est faite avec un couteau créé en 1880 qui s'appelle le couteau chien. C'est une marque de couteau. Donc, ça n'a rien à voir avec les canidés.
Le chien. Alors, vous, l'histoire de Michelin aussi, vous parlez de Michelin. Donc, oui. Brève histoire d'un guide centenaire. Michelin, bien sûr.
Oui.
Tout le monde attend avec impatience les étoiles, qui, quand, comment, etc.
Oui, alors je suis un peu, tout petit peu, pas sévère, c'est pour mon rôle, mais bon, après tout, mon point de vue en plus n'intéressera pas grand monde, mais Michelin, qui prétend être le premier guide gastronomique, au début n'était qu'un petit opuscule destiné aux chauffeurs pour faire réparer les
chauffeurs
pneus,
poids lourds,
bon, mais surtout, il n'a pas été le premier guide rouge. C'est un guide anglais, édité par John Murray, 1836, qui s'appelait le guide rouge et qui était un guide plutôt touristique, mais il y avait des indications de restaurants, pas du tout le même type de classement, mais quand même des étoiles. Donc Michelin était un bon interprète, dans le fond. Oui, et les Anglais étaient, on le sait, au 19e siècle, des grands voyageurs.
J'ai encore le premier guide Michelin, qui est un petit guide brochet rouge, qui était donné aux chauffeurs routiers, ça, avec des étapes, des petits endroits, des restaurants.
À l'époque, en 1900.
Il y avait les garages aussi, qui étaient inscrits dedans. Il y avait,
c'était plus important, les garages. Les véhicules tombaient souvent en panne.
Il y avait combien de voitures en 1900 en circulation?
Oui, très peu de voitures. 2000 voitures. 2000 voitures. Madame Hidalgo était ravie. Hein.
Comment?
Madame Hidalgo était ravie. Voilà,
oui.
Alors, voilà. Et donc, il est étonnant. Je dis, c'est un vrai bonheur. Donc, on parle de Michelin, on passe à Guy Savoie, on rencontre à l'intérieur. Alors, vous avez fait une table analytique des matières. Donc, il y a d'abord les épiceries fines, les gibiers, les viandes, les poissons. Donc, vous l'avez ventilé, si j'ose dire.
Non, ça, c'est pour donner un aperçu un peu plus précis. Sinon, le dictionnaire, il se présente comme un dictionnaire ABCD.
Oui, c'est ça, par
d'alphabétique. Alors que là, ce classement que vous avez sous les yeux analytique, c'est pour destiné à une première lecture pour les confrères ou pour comprendre ce qu'on peut trouver et faire une sorte de garde-manger. Quoi.
Alors, on y trouve aussi les alcools.
Oui.
Les alcools, l'absinthe, bien sûr. On parlait de Voltaire tout à l'heure. L'absinthe.
Il faut réhabiliter la... Voltaire et l'absinthe, ça
non,
me dit pas grand-chose.
Non.
C'est Rimbaud. Rimbaud et Verlaine.
Voltaire
et
Verlaine.
Verlaine.
Voilà, à Montmartre, ils en sont morts.
Mais bien sûr, ils sont morts.
Bien sûr.
Vous parlez de l'absinthe, des alcools, et puis les vins, bien sûr, les boissons diverses, le Romanée Conti. Là, ça donne
J'ai eu quelques chances de... rencontrer, alors que j'étais étudiant, le futur gérant du domaine de la Romanée-Conti, qui était Aubert de Villene à l'époque. Et nous sommes devenus copains, mais parisiens comme ça.
Oui, oui.
Il était un petit peu plus âgé que moi. Mais mes premières dégustations ont été faites, à la DRC, c'est-à-dire au domaine de la Romanée-Conti. Privilège extraordinaire.
Bien sûr.
Comme dégustation.
Et que mes moyens ne m'auraient jamais permis de connaître, évidemment.
Glotte guitare qui se frotte la moustache, vous parlez de Conti.
Alors, en plus, j'y suis retourné après le premier confinement. Un véritable bonheur, selon Aubert de Villene, qui a quitté maintenant la gérance là, depuis l'an dernier, je crois. Mais parce qu'il y avait des oiseaux à nouveau dans les arbres, plus de... etc. Bon, pas de pollution, et un automne calme, une vendange formidable, etc. Et on a goûté tout, Romanée-Conti, La Tâche, Grands Échezeaux, Richebourg... et Saint-Divan.
Quand je pense qu'on
J'ai conscience d'être un privilégié.
C'est fantastique. Évidemment. Alors, vous parlez aussi des balades gourmandes.
Oui, quelques balades gourmandes, en situant ça dans des villes, dans des régions où y compris à Moscou d'ailleurs, où il s'agissait de prendre un peu la température gourmande d'une ville, le goût. En particulier, j'ai bien apprécié un bouquin qu'a fait, on en parlait tout à l'heure, Joël Schmitt, l'ancien président du Prix Caz, sur le goût de Marseille, qui est un très joli bouquin, très petit bouquin, magnifique pour... Et aborder une alors, balade touristique.
Vous parlez du goût de Marseille, vous parlez de la bouillabaisse, vous parlez...
Oui, c'est ça, c'est oui, ça, le goût, ça, le goût...
Le pastis.
Oui, le pastis, évidemment. Mais, il disait d'ailleurs que Marseille est la capitale d'un continent qui s'appellerait la Méditerranée. C'est joli comme...
C'est magnifique, oui, oui. Donc là, dans Bac Gourmande, alors il y a bien sûr la Corse, il y a le Dauphiné, avec tous les plats du Dauphiné.
Notamment la querelle entre le Dauphiné et l'Ardèche, à propos des caillettes, évidemment.
Les caillettes.
Ils sont, pour un œil non exercé, un appétit et un palais, pas très attentif, pas la différence, mais elle est essentielle.
J'ai moi-même fait un livre, La Route Napoléon,
oui.
Où je raconte toute l'histoire de l'épopée de l'empereur qui quitte l'île d'Elbe et qui rejoint, qui remonte à la capitale, Grenoble. Et je donne dans mon lit toutes les spécialités de la région de la Route Napoléon, avec oui. les caillettes, avec...
Ça c'est bien, mais Napoléon n'était pas un grand gourmet.
Non, c'était pas un grand gourmet. C'était pas un grand gourmet du tout. Non. Il mangeait à un quart d'heure vite fait. Je sais pas s'il buvait de l'eau ou du vin, mais...
Il buvait du vin, je crois.
Ouais. Non, et là, dans les régions, est-ce qu'il y a une région particulière, vous, qui vous appréciez? Est-ce que c'est, je ne sais pas, la Corse, l'Alsace
Non, par principe, tout m'intéresse.
Parce que vous partez à l'étranger aussi, hein,
oui,
vous parlez
oui,
de Moscou, vous parlez
oui,
de...
Un peu, oui, oui, oui. Ce qui m'a passionné, c'est de découvrir aussi des régions où je n'étais pas forcément familier, mais par exemple, dans le Nord, il y a des traditions gourmandes tout à fait intéressantes.
Ouais, ouais.
Je donne alors là un peu plus détaillé une recette, car ça peut se faire à la maison, le poche flèche, qui est un pot-au-feu, une terrine de viande blanche que l'on met dans une terrine munie d'une petite cheminée pour faire évacuer les vapeurs. Et avec simplement du thym, du laurier, un peu de vin blanc, un peu d'ail, et qu'on fait cuire 1h30, 2h. Et les viandes blanches, donc lapin, poulet, je ne sais pas s'il y a d'autres, un peu de veau, oui, bien sûr, ça cuit avec les os, sans être paré particulièrement. Donc quand on sort cette terrine, il faut la décortiquer un peu... C'est très populaire, mais c'est très agréable et très bon.
Claude, vous cuisinez vous-même?
Ah oui, ben...
Jean-Claude, vous êtes
un amateur. Mais,
un amateur, mais vous cuisinez.
J'ai cuisiné, j'ai même osé inviter chez moi, quand j'étais assez grandement logé, surtout j'avais une grande table, ronde, j'ai eu six chefs étoilés qui représentaient 11 étoiles Michelin. Il y avait Savoie, Dutournier, Rostand, Seguin et Vigato. Voilà, donc à l'époque...
C'est vous qui avez fait le repas.
J'avais fait une tête de veau en sauce tortue, que m'avait appris Jacques Manière, qui a été mon mentor, en quelque sorte, et mon inspirateur. C'était un type absolument complètement foldingue et délicieux, un ami prodigieux. Mais qui, à plusieurs reprises, me prenait l'après-midi, me montrait les sauces, comment faire un beurre blanc, un beurre rouge, un beurre noisette, un beurre, etc. Enfin, toutes sortes de choses pour agrémenter la vie.
Alors moi, j'appartiens à une association qui s'appelle une académie, l'Académie des plats canailles, qui est managée, qui est réglée par le grand maître qui s'appelle Jacques Martin Tardiva, qui est un de mes amis.
Félicite.
Alors, on se réunit pratiquement tous les mois dans un bistrot, dans un restaurant, on fait notre sélection. Alors là, la tête de veau, bien sûr, est un grand moment.
Elle se raréfie, malheureusement.
Oui, ouais. Il y a très peu de restaurants. Alors là, on va attaquer la période des pot-au-feu, par exemple.
On peut, toujours à la carte.
Oui. Toujours à la carte, la porte toujours. De veau chez Lippe. Hein. Oui. Donc voilà, c'est un avis, je vous conseille, précipitez-vous. Voilà. Et cette Académie des plats canailles se réunit, on est, si
ça vous intéresse, il faudrait venir un jour. On est une cinquantaine là. Ah oui, oui, c'est très, très là. Des fois, il y a des endroits où on ne peut pas aller. Jacques Martin Tardiva appelle en disant dépêchez-vous, il y a 30 places, il n'y aura pas pour tout le monde.
C'est le fils de Jacques Martin, non ?
Jacques Martin Tardiva. Non, non, rien à voir avec Jacques Martin. Non, non. L'Académie des Placanailles, hein, voilà, pour les gourmets. Voilà, vous voyez, entre Valzac, l'Académie des Placanailles, j'ai un peu de mal pour eux. Alors les restaurants, vous parlez aussi des restaurants, donc vous citez Beaumanière, vous citez Maxime, vous citez Taïwan, vous citez... autant d'endroits que vous avez fréquentés, que vous connaissez bien.
Alors oui, en fait beaucoup plus, mais là ce sont des comment on peut dire, un focus, c'est-à-dire quelque chose de précis qui raconte aussi l'histoire du restaurant ou son contexte. Parce que ce que j'aime bien moi, c'est ce n'est pas envoyer des informations, il faut que ça soit rassemblé à un certain moment pour que ça soit cohérent. Maxime, s'il faut comprendre sur un peu plus d'un siècle ce qui s'est passé, comment le grand Véfour aurait mérité aussi de raconter son ascension et son déclin, son ascension avec Raymond Oliver et puis son lent déclin ces dernières années. Mais disons que je n'ai pas voulu faire à travers ce dictionnaire un guide de restaurant. Hein, c'est simplement quelques éclairages particuliers.
Vous citez la mère Brasier, vous citiez aussi oui. Carême.
Oui, alors là j'ai introduit dans ce dictionnaire ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire quelques, pas des portraits, mais des dialogues. Voilà, quelques dialogues entre, complètement imaginaires évidemment, entre des personnages qui se retrouvent au bord du Styx, n'est-ce pas, en attente de franchir le Styx, qui est le fleuve des enfers, pour être jugés. Donc ils sont en attente, et puis ils dialoguent entre eux. Donc Taïwan parle avec Robuchon, la mère Brasier avec Taïwan, et puis le dernier, il y en a trois, non, ça ne me revient pas, mais ça permet de les faire parler.
De faire parler, d'échanger. De...
Un fond de vérité personnelle, et un petit message, malgré tout, pour ça. Et Aleno, à l'occasion d'un dialogue avec des chefs, etc. Quoi. Voilà.
Voilà, Yannick, mon copain Yannick.
J'ai fait avec lui un bouquin qui l'a publié en 2009, Terroir parisien.
Terroir parisien, exact.
C'est
vous qui avez rédigé.
Les textes.
Alors, il y a aussi des cuisines, on s'approche de la fin de l'émission, donc on va terminer par ça. Des cuisines qui sont des cuisines dissuasives. Hein. C'est-à-dire, oui. Par exemple, la cuisine aux additifs que vous... Qu'est-ce que vous appelez la cuisine aux additifs ?
Moi, je prends assez rarement parti dans toutes ces affaires, sauf assez clairement et assez vigoureusement à l'égard de la cuisine dite moléculaire de ce qu'on appelle la cuisine aux additifs, c'est-à-dire avec des produits chimiques, au nom d'une prétendue modernité, invention, renouvellement des pratiques culinaires, etc., qui non seulement me font doucement rigoler, mais surtout provoquent, comme disait M. Prudhomme, des dissensions intestines.
Voilà, on va arriver au terme de l'émission. Je voudrais rappeler le nom de vos livres. Donc là, nous étions avec Jean-Claude Ribaud pour son futur dictionnaire gourmand du bien boire et bien manger aux éditions du Rocher. Donc le livre sortira le 14-15 octobre. Il y en aura pour tout le monde, Sylvana, oui, ça va, il y a un beau tirage, bon, bravo. Voilà, nous étions également avec Gérard Letailleur, vous connaissez, puisqu'on a fait pas mal d'émissions, on se voit souvent, pour son livre chez Valzac, un bistrot hors du temps, un café historique, qui est aux éditions du Alpha. Voilà. Et on le trouve aussi, alors j'ai vu qu'il était en vente chez Valzac, il y en a une pile chez Valzac.
Oui, oui.
Et alors, à chaque fois que vous rentrez chez Valzac, vous sortez avec le livre de Gérard. Il est astucieux pour vendre ses livres. Hein.
C'est très bon.
Je vous donne des conseils. Hein. Oui. Mettez une pile de votre livre chez Libre, vous allez voir, vous allez en vendre.
Et c'est fait.
Ah, bravo, les éditions du Rocher vont être ravis. Voilà, et puis il y a aussi un livre qui est pour moi une bible, avec la préface de Jean Piat, c'est L'histoire insolite des cafés parisiens, Gérard Le Tailleur chez Perrin, qui est une véritable bible là qu'il faut avoir absolument dans sa bibliothèque de gastronome. Voilà, et puis Claude Guittard. Alors Claude Guittard, je crois que je vais le retrouver chez Lipin C4, il va me faire découvrir tout ce que j'ai lu dans le livre.
Avec grand plaisir.
Les plats de Lip. Voilà, puisque le monde entier défile dans la célébrerie, je vais y retourner bien sûr. J'ai Claude Guittard, Lip est une fête, aux éditions du Rocher également. Un très beau livre, un très beau titre. Lip est une fête, Paris est une fête aussi, et Paris est une fête avec Lip.
Je voulais, comme c'est la fin de l'émission, simplement rappeler à nos auditeurs une date, 2010, parce que la gastronomie française a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, à l'UNESCO, en 2010. Belle lettre nos noblesse pour la gastronomie dont nous avons parlé durant toute cette émission.
Voilà, ben c'est une belle fin d'émission. Merci à vous, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. On n'en a pas grignoté, il est bientôt 1h30, donc ça va être un peu dur. Mais... on va aller chez Lip, je crois. Hein. Voilà. Peut-être que Claude Guittard nous trouvera une petite table dans un coin.
Pas
à l'étage, on ne veut pas aller à l'étage, nous. Hein. Voilà, merci, chers amis de Radio Courtoisie, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour d'autres émissions, d'autres aventures. Et à très, très vite.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des éditeurs, dirigé par Jean-Paul Nadéo, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 27 septembre 2024 de 12h à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.